Les accusés réfutent la plupart des actes qui leur sont reprochés, à commencer par le trafic international. Une défense dont la procureure Nathalie Guillaume-Gentil-Grosse a l'habitude.
C'est pas étonnant, les affaires de stupéfiants, c'est un argument de défense classique. Les prévenus cherchent à minimiser leurs actes. Ça fait pas de différence ici dans cette affaire. C'est souvent le cas. J'ai plaidé ce matin, requis ce matin, toute une série d'éléments qui sont établis dans le dossier. Ce trafic de stupéfiants a concerné plusieurs pays. Ça devient donc un trafic international. Il n'y a pas d'épingle ni de montage dans cette affaire.
Quand on vous dit, mais dans un trafic international, est-ce qu'on prend, je m'excuse un peu du terme, mais on a l'impression que c'est un peu des bras cassés.
Il ne faut pas confondre, et c'est ce que j'ai requis ce matin, les transactions qui sont établies dans ce dossier avec tous les actes préparatoires qui ont aussi été déjà en partie retenus par le tribunal criminel et sur lesquels je suis revenue ce matin. Un acte préparatoire, c'est une mesure prise en vue du trafic. Et c'est là-dessus que les discussions ont lieu, c'est là-dessus que la défense essaye de venir reconstruire un sens à des déclarations qui sont au dossier et qui sont établies.
Sur les actes préparatoires, ministère public et défense sont aussi diamétralement opposés. Yves Grandjean, avocat du principal prévenu.
On veut monter les actes préparatoires sur la base d'écoutes téléphoniques et on n'a pas réussi à véritablement démontrer que font ces quatre personnes qui ont des liens d'ailleurs très ténus finalement aient déjà été assez loin pour préparer ce qu'on appelle des actes juste avant la tentative. Non, ce n'est pas le cas.
Alors la procureure décrit votre client comme le chef de ce réseau, de cette bande. Vous avez dit cet après-midi, si vraiment c'était un gros bonnet, il ne se serait pas à coquiner avec des gens qui sont aujourd'hui sur le banc des accusés.
D'évidence. Aussi là, je veux dire, c'est un aéropage complètement disparate qui est devant ce tribunal, avec un restaurateur, un chômeur et puis un assureur qui n'ont absolument pas ni le profil ni les compétences pour former une bande, voire même une organisation criminelle que dirigerait mon client, dont je rappelle qu'il est soudeur professionnel. Jusqu'à son arrestation, il travaillait à plein temps. Tout ça n'est pas raisonnable de la part du ministère public.
Finalement, la première instance a retenu 5,2 kilos de cocaïne. Et ces 5,2 kilos de cocaïne, c'est justement ceux qui sont en lien avec l'agent infiltré.
C'est évident. Le problème, c'est que la seule drogue dure qui a été retrouvée dans ce dossier, c'est celle qui a été achetée par la police dans des conditions qui ont été largement critiquées par tous les mandataires dans cette audience, en estimant que la police est allée beaucoup trop loin dans l'incitation, dans la provocation pour acheter cette cocaïne. De sorte que ces 5,2 kilos, personne ne les conteste, mais la loi prévoit jusqu'à la suppression de la peine, jusqu'à la libération, si le caractère incisif de la police est allé beaucoup trop loin. Et c'est ce que nous pensons dans cette affaire.
C'est justement un des points clés de cette affaire. Ça pourrait faire cas d'école.
C'est très difficile de faire des cas d'école parce qu'en matière de ces investigations policières secrètes, il faut voir de cas en cas. Mais en tout cas, il est certain que la cour d'appel devra se prononcer pour nous dire si, plus ou moins que le tribunal criminel, qui avait déjà rappelé quand même que c'était allé trop loin, cette cour, au fond, va pouvoir dire qu'ils sont allés encore peut-être plus loin et trop loin que ce que la cour criminelle a dit précédemment. Cela, c'est important, oui.
Les prévenus avaient écopé de peines de prison allant de 1 an avec sursis à 8 ans en première instance.